Sinon, je vous invite à prendre vos Bibles dans les Actes des Apôtres, et au chapitre 6. Actes des Apôtres et au chapitre 6. Nous sommes encore dans cette série d'études de personnages bibliques, et chaque fois... C'est pour ça que nous avons les récits, non pas parce qu'ils nous demandent de respecter les personnes, mais c'est de voir l'œuvre de Dieu dans les cœurs des uns et des autres. Et nous sommes des personnes comme eux, c'est des personnes comme nous. Et donc, chaque fois, nous pouvons tirer des leçons. Donc, Actes chapitre 6, et la personne à qui nous pensons en particulier, c'est Étienne. Étienne était juif. Mais sa langue maternelle était le grec. Donc c'était un helléniste, dans le sens que la langue dans laquelle certains venaient d'autres régions où c'était la langue dominante, et c'était le grec. Et donc il était un helléniste. Les juifs de Palestine, on les appelait hébreux. Et ne parlait pas l'hébreu parce que l'hébreu était presque oublié à l'époque, hein, c'était devenu une langue morte. Il parlait l'araméen, hein, qui était une langue semblable, la même famille que l'hébreu, que d'autres langues aussi. Hein. Donc, Étienne, son nom dans le grec, c'est Stéphanos, hein, d'où on a le nom Stéphane, Stéphane, Steve, par exemple. Hein. Stében, et en chacune des langues, hein, c'est traduit autrement, mais c'est Stéphanos, et le mot Stéphanos veut dire une couronne. Voilà, donc ce qu'on peut dire sur Étienne. Donc Étienne, c'est la forme latine, hein, de Stéphanos, c'est pour ça que les habitants de Saint-Étienne s'appellent les Stéphanois. Hein, c'est le lien, hein, c'est voilà. Donc Étienne, c'est le nom latin, hein, de la même personne. Donc on va commencer à lire au verset 1, donc Actes chapitre 1 et verset 1 jusqu'à 6 déjà. Il dit: en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi, d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche, et les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Donc vous avez vu que parmi les 7 qui ont été choisis, eh bien, il y a Étienne. Il est le premier en liste, mais bon, tous ont été choisis en même temps. Hein, parfois Étienne est appelé le proto-diacre, parce qu'il est le premier diacre. Mais en fait, c'est les 7, hein, ils étaient élus en même temps, les 7 sont proto-diacres. Donc, la première chose, nous voyons Étienne qui est diacre de l'Église. Ensuite, à partir du verset 7, nous voyons Étienne qui est l'apologiste, donc la défense de la foi. Et puis, à la fin du chapitre 7, eh bien, Étienne deviendra le martyr, et il sera le premier martyr de l'Église. Déjà, ici, nous avons l'église primitive, l'église de Jérusalem. Peut-être que ça fait quelques mois, je ne sais pas, on ne peut pas voir mais le nombre de disciples augmente, l'Église est en pleine croissance, et vous savez que vous vivez dans notre monde, plus il y a du monde, plus il y a des problèmes. Et c'est pas long, plus on a du monde, plus tout d'un coup les problèmes apparaissent. Et c'était la faute à personne, mais c'est seulement parce qu'il y a du nombre, et bien que les situations se présentent. La coutume de l'Église primitive, c'était de faire une distribution pour les veuves et ceux qui étaient démunis. C'est quelque chose qui existait dès le début dans l'Église de Jésus-Christ. C'est l'une des caractéristiques premières de l'Église. Hein, ce n'était pas seulement le fait d'être rempli de l'Esprit, mais en même temps, c'est d'être conscient du besoin matériel et physique de certains. Et en fait, Jacques, qui est le demi-frère de Jésus, hein, donc des enfants nés à Marie après la naissance de Jésus, donc Jacques, ce sera le responsable de l'Église, c'est lui qui écrira l'épître de Jacques. Et ce n'est pas étonnant que lui dise dans son épître, justement, au Jacques chapitre 1, verset 27, et je vous le lis, « La religion pure et sans tache devant Dieu et notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions. » Donc comprenez que c'était vraiment l'orientation. Hein, pour lui, il dit « La religion pure, hein, c'est vraiment, c'est pas du parler, c'est d'abord une vie. » Et il dit « C'était la conscience du besoin » des veuves, à l'époque, il n'y avait pas la sécurité sociale, il n'y avait pas toutes les aides sociales, et donc quelqu'un qui se retrouvait veuve se trouvait complètement démuni, hein, et à la merci de tous. Donc l'Église les avait pris à cœur, et certains qui avaient les moyens, eh bien, vendaient de leurs biens, et le produit l'apportaient, le déposaient aux pieds des disciples, des apôtres, et qui se chargeaient de la distribution. Avec le nombre, eh bien, ils n'arrivent pas à suivre. Et finalement, il y a un problème qui se développe, c'est que involontairement, eh bien, les veuves hellénistes, celles de langue grecque, eh bien, sont négligées. C'est pas discuté, hein, c'est pas jeune, c'est apparemment c'était réel. Alors que l'intention dans l'Église, c'était vraiment ce qu'on voit au chapitre 4 et verset 34. Hein, c'était ce qu'il voulait maintenir. Au chapitre 4, verset 34, il nous dit « Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. » Donc dans l'Église, on s'était débrouillé pour que personne soit complètement démuni. Tous soient pourvus. Hein, c'était vraiment l'intention de l'Église. Donc, et là, eh bien, il n'arrive pas à suivre, le nombre est grand, il ne nous donne pas d'explication pourquoi c'est arrivé, ça suffit que ce soit une réalité, c'est un problème, donc on le traite. On ne cherche pas un fautif, on ne cherche pas un coupable, on constate un problème, et c'est toujours mieux de traiter les choses de cette manière-là, hein, c'est quand il y a un problème, ce n'est pas d'accuser quelqu'un, c'est de s'intéresser au problème. Hein. Et c'est ça qu'on dit dans un couple aussi. Dans un couple, on dit n'attaque pas la personne, attaque le problème. Hein, c'est une bonne démarche. Et c'est ce qu'ils vont pratiquer là. Ils s'intéressent au problème. Et la distribution se faisait tous les jours. Et les disciples, les apôtres, eh bien, ils se rendent compte qu'ils n'arrivent plus à suivre. Et il n'y a pas l'équité entre les uns et les autres. Donc, ils prennent la question vraiment au sérieux. Ce qu'on constate, c'est que les apôtres, eh bien, réduisent le problème à un choix qu'ils doivent faire. C'est soit se donner à la prière et à l'enseignement de la parole, soit de se donner au service des tables. Mais qu'ils ne pouvaient plus faire les deux. Hein, donc, c'est toujours très bien quand on se rend compte de nos limitations, hein, c'est toujours bien. C'est frustrant d'avoir affaire à quelqu'un qui croit pouvoir tout faire, alors qu'il n'arrive pas, et puis après, là, on est frustré parce qu'il faut attendre. Et donc, c'est de pouvoir déléguer hein, les responsabilités. Et donc, le choix est là. Et les disciples, les apôtres disent, ben, écoutez, nous, il va falloir qu'on va se donner, il faut qu'on se donne à la prière, à l'enseignement. Hein, c'était eux les mieux placés pour cela. Ils avaient été auprès du Seigneur, ils avaient reçu l'enseignement, donc ils pouvaient se donner à cela. Mais il dit, bon, il faudra choisir des personnes pour faire le service des tables. Et quand on pense au service des tables, l'idée qui nous vient à l'esprit, hein, parce qu'on est ce qu'il y en a, c'est ces gens qui mettent le couvert, qui mettent, ils servent la soupe dans le bol, et c'est le service des tables. Et comprenez que le mot service des tables, le mot service là, c'est le mot diakoneo, qui veut dire, c'est d'où vient le mot diacre. Hein, le mot là, c'est le mot diacre. C'est pour ça qu'on les appellera par la suite les diacres. C'est le fait de servir. Mais ce que vous verrez aussi, c'est que au verset 4, les apôtres disent « Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Et le mot « ministère » là, c'est le même mot dans le grec, même si en français on a pris des mots différents, mais les apôtres ont choisi le même mot. Il dit « C'est le diakoneo des tables et c'est le diakoneo de la parole. » C'est le service, le ministère, c'est ça l'idée. Et donc, c'est un même ministère. Ce n'est pas qu'il y en a un qui est honorable et puis un autre qui est plus... Hein. Pour lui, c'est le même mot. C'est ça que nous avons besoin de comprendre, parce que nous sommes issus d'une société où il y a des tâches qui sont honorables et puis il y a des tâches qui le sont moins. Il y a des tâches, c'est pour les spirituels, il y a des tâches pour les non-spirituels, il y a des tâches pour les plus intelligents, il y a des tâches pour les non-intelligents. C'est notre société et on souffre de cela. Hein. Mais lorsque on arrive dans l'Église de Jésus-Christ, c'est pas une question c'est plus de la même manière qu'on voit les gens. C'est pour qui est-ce que tu le fais qui importe. C'est pas ce que tu sais faire, c'est ce que tu fais pour qui est-ce que tu le fais. Et donc là, il va employer ce mot diakoneo et remarquer l'importance qu'il donne à cette tâche, servir. C'est servir les tables, c'est pas juste servir la soupe. Hein. Servir ces tables, regardez, il dit, vous allez choisir des hommes. Il dit, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, bon d'accord, je veux bien, et qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Tiens, des qualités spirituelles pour un travail manuel. C'est comme ça que ça, nous, on a l'habitude, on est tellement marqué par la société dans laquelle on vit. Mais il faut comprendre, c'est que dès le début de l'Église primitive, tout ce que je fais pour Dieu, c'est un travail spirituel. Et c'est une tâche qui demande, donc c'est pas, on ne donne pas des tâches dans l'Église pour fidéliser, on ne donne pas des tâches pour m'occuper, ouais, pour qu'ils se sentent un peu utiles. Non, non, le but c'est que quelle que soit la responsabilité, quelle que soit la chose que l'on fait dans l'Église, peu importe à quoi elle ressemble dans le monde, mais à partir du moment que c'est pour le Seigneur, c'est une œuvre spirituelle qui se fait par des personnes spirituelles. Donc, on ne peut pas confier des tâches dans l'Église, on ne peut pas les confier à juste n'importe qui et dire, écoute, toi, tu sais faire ça, alors tu vas le faire. Non, non, ce n'est pas une question de tu sais le faire, c'est une question de quelle est ta relation avec le Seigneur d'abord. Hein, et c'est une autre manière de penser. Mais c'est celle qui est là, qui apparaît dans l'Église primitive, et c'est là où nous devons nous inspirer aussi. C'est que c'est pas important que tu sois celui qui sache mieux le faire, ce qui importe c'est celui que tu es prêt à le faire, tu vis, tu as une relation avec le Seigneur qui te permet de le faire. Hein? Et donc, Étienne est choisi sur cette base-là. Et donc, c'est les qualités qu'on cherche chez celui qui va servir les repas aux veuves et aux orphelins, certainement, eh bien, c'est celui qui est digne de prêcher la parole. Hein, dites, wow! Eh bien, oui, Mais c'est que, et puis bon, je ne vais pas m'attarder sur l'idée de diacre, mais le fait c'est que par la suite, lorsque Paul enseignera à Timothée comment choisir, il dit tu choisiras parmi les gens qui ont ces qualités. Et finalement, vous allez voir que les qualités de pasteur et les qualités de diacre sont les mêmes. La seule différence c'est que le pasteur enseigne la parole et les autres ne l'enseignent pas. Mais sinon, du point de vue qualité spirituelle, c'est les mêmes. Et donc nous devons déjà former notre pensée et nous aligner sur la pensée du Seigneur. C'est extraordinaire et c'est ça, en cela que l'Église de Jésus-Christ se distingue de tous les autres organismes et organisations qu'il y a dans le monde. Et donc finalement, celui qui vit pour le Seigneur, qui aime le Seigneur, eh bien il a sa place pleinement dans l'Église de Jésus-Christ. Donc, on voit, et là, bien sûr, donc, parce qu'à cause du mot service, du mot ministère, diaconat, et donc, nous avons, par la suite, eh bien, se développera, ça, ce sera la première fois, par la suite, eh bien, se développera dans l'Église, il y aura des diacres dans l'Église, et qui ont des fonctions précises, mais qui remplissent des qualités spirituelles et qui vivent pour le Seigneur. Hein. Donc, ce ne sera pas la manière dont je comprends les choses. On peut être diacre tant qu'on vit pour le Seigneur. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a été, ou parce qu'on a des talents. Les talents naturels n'ont rien à faire dans l'Église, elles servent. Mais c'est surtout les qualités spirituelles qui sont reconnues dans l'Église. Donc, Étienne, le diacre. Bon, si nous continuons la lecture en verset 7, eh bien, nous voyons, je vais lire au verset 7, il dit « La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait en beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. » Pensez surtout des gens comme Zacharie, dont on a parlé dimanche dernier. C'est des prêtres, pas forcément les pharisiens et les scribes. Hein. Verset 8. « Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. » Et tellement il avait un ministère spirituel, on ne parle plus des tables maintenant, on est en train de parler de la parole qu'il avait et cette sagesse. Et nous dit quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens, de celle des Alexandrins, avec juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Tout d'un coup, on se rend compte que cet homme à qui on le donne la tâche de mettre la table et de servir la soupe, finalement, c'était un homme qui avait des grandes capacités. Elles étaient là. Ses connaissances, il les avait. Vous savez, ça me dit quelque chose sur Étienne. C'est que, et certainement qu'il se rendait compte de ses connaissances. Il le savait, il était conscient. On n'est pas intelligent sans le savoir. Hein. Peut-être c'est ce qui me manque. Mais, vous savez, ça ne l'a pas empêché d'accepter cette tâche de servir les tables. C'est un homme qui était tellement spirituel, tellement grand devant Dieu, qu'il n'avait aucun problème à être celui qui sert la soupe. Il l'a accepté. Et vous savez, et Jésus-Christ l'a dit, celui qui sait être fidèle dans les moindres choses le sera dans les grandes. Déjà commence à servir là où tu peux, là où ce qu'on te propose, et puis on verra ce que le Seigneur a. Et Étienne, c'est un homme qui commence avec les tables, et certainement qu'il commence à discuter à la table, après quand il rentre dans des discussions, et puis après ça va de plus en plus loin, au point que non seulement est-ce qu'il fait des miracles et des prodiges qu'on croyait être uniquement la chose des apôtres, mais il le fait comme ça, on dit ça en passant, comme ça, comme si de nos jours, il y aurait de la publicité, hein, c'est quelqu'un qui pouvait faire ça. Mais là, ça s'est dit en passant, parce que ce n'est pas l'essentiel de son ministère. Il avait un tel c'est pas juste, il savait utiliser le verbe, Mais il avait quelque chose derrière le verbe. Et on réussit, on ramasse des gens de différentes synagogues et on les amène là et ils confrontent Étienne. Et Étienne arrive à répondre. Il sait répondre. Et d'où cette idée de Étienne, l'apologiste, celui qui est là pour la défense de la foi et de la doctrine. Donc, celui qui est choisi pour servir les tables, tout d'un coup, il devient presque un précurseur de l'apôtre Paul. Saul de Tarse, il n'est pas encore. Il apparaît à la fin du chapitre 7, et c'est l'un de ceux qui approuvent la lapidation d'Étienne. Mais Étienne est déjà celui qui est là et qui peut défendre. Même il prend le dessus sur les apôtres, tellement il a la connaissance de la parole et il a cette attitude. Et on continue à voir ses capacités. Il nous dit qu'il était plein de grâce et de puissance. Il faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Et pour que déjà les apôtres, Jésus avait fait des choses. Les apôtres avaient fait des choses et puis lui, il arrive derrière et on dit, ah, il fait des grands miracles. Donc c'était, du point de vue langage humain, hein, c'était peut-être encore plus extraordinaire que les apôtres. Mais ce qui importe, c'est que l'attention était toujours tournée vers le Seigneur. Et Étienne, vous savez, les connaissances, ça ne vient pas comme ça. Hein, on est des êtres humains, on sait que les connaissances, ça s'acquiert. Et en plus, lui, il était helléniste, donc il n'avait même pas grandi en Palestine, il était grandi ailleurs. Et il était arrivé à Jérusalem, et c'est là qu'il a appris des choses. Il nous dit que ces hommes ne pouvaient pas le résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Il avait maîtrisé la pensée du Seigneur et la parole de Dieu, et il était avancé dans ses connaissances. Et alors, vous savez ce qui arrive, et ce qui arrive toujours, hein, ça arrive encore aujourd'hui, c'est que quand on n'arrive pas à débattre et avoir raison dans un débat, et qu'on ne veut pas croire, eh bien, on commence à combattre. Et donc, là, ces hommes discutent avec lui, ils ne savent plus quoi répondre, comment répondre. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à faire des accusations et raconter des mensonges sur lui. Vous savez, ça se fait encore aujourd'hui. Il y a des chrétiens dans certains pays, eh bien, parce qu'on ne sait pas quoi faire avec eux, comment les accuser. Donc on les accuse d'avoir blasphémé contre le prophète. Dans d'autres cas, on les accuse d'amener des coutumes qui sont venues avec la colonisation. Alors ça fait déjà, les idées ne sont pas bonnes. On dit, bon, ça c'est une religion qui est venue avec la colonisation, ça ne vient pas de chez nous. Et puis il y a d'autres cas où on dit, bah oui, ces gens-là, oui, mais ils ne croient pas à la Vierge. Donc voilà, on dit des choses qui ne sont pas vraies. Parce qu'on ne sait plus quoi dire, on ne sait pas comment répondre. Et là, on commence à accuser. Regardez au verset 11. Il dit, alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent, c'est-à-dire qu'on a payé des gens pour dire n'importe quoi. Alors, ça vous rappelle un peu ce qui est arrivé avec Jésus, n'est-ce pas? Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ça, c'est sûr, hein, dans le milieu juif, c'est à partir du moment que tu parles contre Moïse, contre Dieu, eh bien, tu as tort. C'est ça qu'on a fait de Jésus, c'est ça qu'on va faire avec. Hein. Et tout d'un coup, eh bien, Étienne se trouve devant le Sanhédrin, le même Sanhédrin devant lequel Jésus s'était trouvé dans la veille, la nuit qui a précédé sa crucifixion. Eh bien, là, Étienne se trouve devant eux, mais, vous savez, c'est... Ils sont là pour l'interroger, mais on a le sentiment qu'ils ont déjà décidé ce qu'ils vont faire de lui, hein, comme pour Jésus. Hein. En fait, tout ce qu'on fait, c'est on essaie de le provoquer pour qu'il dise quelque chose sur lequel on peut sauter et condamner. Et donc, Étienne se trouve là, Et ils ne pourront pas résister. Et il nous dit que, on arrive au verset 15, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Ils sont là, et finalement, il y a quelque chose qui resplendit, qui transparaît. Cette lumière qui est en lui, transparaît tellement c'était un homme qui était complètement donné, rempli de l'Esprit de Dieu, c'est que même ces hommes qui n'arrivaient pas à voir, qui refusaient de voir la vérité, ils ont vu que c'était, il y avait quelque chose en lui. Ils auraient dû se soumettre, accepter cela. Mais non, non, quand on ne veut pas, on ne veut pas. Ces derniers temps, je suis en train de lire un livre, c'est une personne qui, un scientifique finlandais, je crois, qui était contre tout ce qui était de création, hein, que Dieu aurait créé ce monde et qu'il y avait une intelligence derrière la conception de ce monde. Et il était contre. Mais arrivé à le jour où il a commencé à se dire, mais bon, un scientifique, c'est celui qui reçoit les faits et qui les étudie. Hein, par principe, un scientifique, c'est quelqu'un qui constate des faits et qui tire des conclusions. Il a dit, je tire les faits sur certaines choses, mais d'autres choses, je refuse de voir les faits. Il a dit, c'est pas honnête. Il a dit, je vais m'ouvrir à cette idée-là aussi, et l'idée d'une intelligence derrière la création du monde, derrière l'origine du monde. Et il s'est ouvert à cela. Et puis en particulier quand il a commencé à méditer sur la génétique. La génétique, c'est une science très récente. Hein. C'est quelque chose qui, ces dernières années, ça fait des bons extraordinaires. Et je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est fascinant. Je suis en train, sur mon deuxième livre là-dessus. Mais c'est qu'il y a un code là et qui ne vient pas de nulle part. Il y a un code que personne ne peut toucher, qu'on ne peut pas modifier, il est là, et il ne vient pas de nulle part. Et il était à l'origine, et même les éléments, les cellules les plus simples, les êtres les plus simples, ils ont un code compliqué. Il y a une clé là, il y a un code, et de dire que ça vient de nulle part, ou que de nulle part vient un code pareil, qui est équivalent de notre système informatique, binaire informatique, ou qui est équivalent de d'autres codes qu'on emploie. Il dit, je suis dans le livre, alors je vous dirai plus tard la suite, hein, mais je crois qu'il devient croyant, hein, c'est l'idée que j'ai. Dans tous les cas, mais il y en a qui insistent, ils refusent, non, cette réponse, je ne la veux pas, je cherche n'importe où ailleurs, mais je refuse ça. Mais ça a toujours existé. L'être humain est toujours comme ça parce qu'il a reconnaître certaines choses, lui met devant certaines responsabilités et ça le gêne. Mais là, Étienne, il y a un témoignage là. Et on peut, ou il faut l'accepter, ou il faut le détruire. Et ils vont faire ce choix de l'éliminer. Et donc, il est là. Et le chapitre 7, et je ne vais pas lire le chapitre 7, mais en fait, parce qu'il est très long, c'est l'un des plus longs discours qu'on a dans les Actes des Apôtres, même dans le Nouveau Testament. Mais il va répondre à une question, parce qu'au verset 13, il nous dit, donc acte 6, verset 13, nous dit, « Ils produisirent de faux témoins qui dirent, « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. » Donc on l'accuse de parler contre le lieu saint. Alors si, première lecture, vous lisez le chapitre 7, vous lisez tout ça, vous dites, mais bon, je n'y réponds pas à la question. Mais lorsque nous lisons les premiers 50 chapitres, et si nous méditons un petit peu là-dessus, et moi je vous donne juste des idées, hein, après vous pourrez voir, mais... Étienne, il est en train de, il va faire référence à des faits que eux ne peuvent pas refuser. Ce sont des réalités, c'est des textes. Tout ce qu'il va dire, c'est du vrai. Et ils sont obligés de suivre, et donc ils ne disent rien pendant... Ils le laissent parler, ils le laissent parler. Mais en fait, il y a un raisonnement qu'il est en train de communiquer en tant qu'apologiste. D'abord, il dira, vous parlez d'un lieu saint. Il dit, mais Dieu a parlé à Abraham, il était en Mésopotamie. Si Dieu a parlé là-bas, Dieu était là, donc est-ce que c'est un lieu saint? Après, il dit, bon, et Abraham a quitté la Mésopotamie, Ur en Chaldée, puis il s'est rendu un peu dans le territoire de Charan, en Assyrie, tout à fait au nord. Et puis Dieu lui a parlé là. Il dit, donc, est-ce que ça, c'est un lieu saint, alors? Et puis ensuite, il est descendu en Palestine, à Canaan, et c'était encore dominé par les Cananéens, c'était païen, et Dieu lui a parlé là. Il dit, donc, là aussi, alors, c'était un lieu saint. Il dit ensuite, il est descendu en Égypte, et Dieu lui a parlé en Égypte. Puis après, il est revenu, et puis il dit par la suite, Dieu a parlé à Moïse, dans le Sinaï, le désert du Sinaï. Et puis après, le tabernacle, ben, c'était pas un lieu, parce que le tabernacle, il se déplaçait. Et Étienne est en train d'avancer comme ça, et de dire, mais alors c'est où le lieu saint? Finalement, c'est partout et nulle part. Et ils sont là, ils peuvent rien dire. Parce que c'est tout. Il est en train de faire cet argument, en train de le construire, en racontant l'histoire. Mais en fait, il est en train de leur dire, écoutez, c'est où le lieu saint? Et même, il dit par la suite, il dit, David voulait construire le temple, et puis c'est son fils qui l'a construit à Jérusalem. Mais ça a été détruit. Puis on en a reconstruit un. C'était Esdras qui l'a reconstruit. Puis ça a été démoli aussi. Puis après, Hérode est arrivé. Celui dont ils ont maintenant, c'est celui d'Hérode. Il dit, c'est où? Et puis il cite justement, donc au verset 49, hein, Jean chapitre 7, acte chapitre 7, verset 49, il va citer Ésaïe. Et il veut dire, écoute, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Il arrive à la fin et eux, ils ne peuvent rien dire. Il dit, alors, vous m'accusez de parler contre le lieu saint. Quel lieu saint? Où? Il est où le lieu saint? C'est partout. C'est n'importe où. C'est là où Dieu parle. Et ils sont silencieux. Ensuite, au verset 51, il passe, là, tout d'un coup, il change de pensée, parce qu'on l'a accusé d'autre chose. Il dit, mais vous, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, parlant de Jésus. Et vous avez été les meurtriers. Il dit, le juste, les prophètes que vous dites respecter, ils ont annoncé le juste. Quand le juste est venu, vous l'avez tué. Et vous n'avez pas gardé les commandements que les anges ont apporté. Et alors là, ils ont réagi. Ils ne pouvaient plus écouter. Ça, ils ne pouvaient pas répondre, mais ils ne voulaient plus écouter. Et c'est là où ça explose. Et il nous dit au verset 54, il nous dit, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais, et c'est très beau là, c'est la dernière pensée pour ce matin, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Jésus debout à la droite de Dieu. Debout. Non, mais Jésus était monté pour s'asseoir. Mais Jésus s'est levé pour Étienne. Levé pour l'honorer. Et levé parce qu'il s'intéresse. Hein, Dieu n'est pas un Dieu lointain qui nous laisse et puis après il dit, bon, je ramasserai à la fin, je verrai ce qui reste de votre vie et des restes des autres. Non, Jésus suit et Jésus a suivi ce qui se passait là. Et puis Jésus certainement s'était levé aussi pour, qu'est-ce qu'il savait qu'il allait venir bientôt, et pour l'accueillir dans la gloire. Mais le Seigneur accorde une vision de cela. C'est une réalité, c'est un fait. Mais là, pour la première fois, hein, c'est toujours très important de voir dans la Bible la première fois qu'une chose arrive. Parce que c'est là le principe pour le reste. Et là, c'est la première fois qu'il y a un martyr, il y a la première fois qu'il y a une telle situation, et bien là, le Seigneur lui donne la vision de Jésus qui s'intéresse et qui suit la chose. On n'est pas seul, on n'est pas abandonné. Et c'est ce qui va encourager Étienne et qui va être lapidé. Mais dans sa lapidation, il sera digne d'un disciple du Seigneur, parce que vous verrez au verset 60, alors qu'il est sur le point de mourir, il s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit, c'est-à-dire il est mort. Il termine de la même manière que le Seigneur. Le Seigneur sur la croix qui dit, « Père, pardonne-leur. » Et lui, alors qu'il est là, et c'est injuste depuis le début, mais il dit, « Seigneur, ceux qui font là, ne leur impute pas. » C'est Étienne, c'était un homme qui était vraiment rempli du Seigneur. Rempli parce que son comportement était digne du Seigneur. Ses réponses, sa manière de voir. Et c'est là, c'était un homme, et c'est pour ça que le titre à l'origine, je ne vous l'avais pas dit, mais il nous dit que c'est un homme plein de foi et plein d'Esprit Saint. Et Étienne, à cette époque, eh bien, a été fidèle. C'est celui qui a pu, qui a accepté une humble tâche, pour employer le langage humain, et que Dieu en a fait un grand. Il est le premier martyr de l'Église. Et il est un exemple pour nous tous et pour tous ceux qui doivent souffrir pour la cause de Christ. Et ils savent qu'ils ne sont pas abandonnés, qu'ils ne seront pas oubliés et que le Seigneur suit. Et dans cela, le Seigneur choisit de ne pas intervenir, pas de le délivrer, mais le Seigneur est là. Et donc, voilà ce personnage, Étienne. Et donc, c'est un modèle pour nous. Et c'est un comportement que nous devons, dans lequel nous pouvons nous inspirer, à être justement comme Étienne, à désirer être comme Étienne dans notre marche tous les jours. C'est ce que le Seigneur cherche. Et c'est pour lui que le Seigneur s'est levé, alors qu'il était assis. Hein, ce n'est pas le roi qui se lève pour le serviteur, c'est le serviteur qui s'agenouille. Mais là, Jésus se lève pour lui, et pour l'approuver, le reconnaître et le recevoir. Et donc, voilà encore ce message de la parole pour nous. Et donc, soyons de cœur, soyons des diacres. Et celui qui est de diacre de cœur le sera aussi un serviteur du Seigneur dans les œuvres dites spirituelles. Voulons terminer par la prière, et peut-être que le Seigneur vous a parlé d'une manière ou d'une autre, et peut-être qu'il a même suscité des pensées que je n'ai pas soulevées, mais qu'il vous a parlé à ce sujet-là. Eh bien, je vous donne quelques minutes pour lui en parler, pour dire deux choses, et puis ensuite je prierai.